Daniel 6, et on va lire tout le chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui, un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouvons aucune raison contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, au roi, soit jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion ?» Le roi répondit, « La chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois par jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense et tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et leur brisèrent tous les os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Et cette semaine, j'aimerais vous parler de notre ennemi, le diable. Malgré elle, la semaine dernière, on a eu une petite chose qui s'est passée au culte pour ceux qui étaient là. Donc je dis malgré elle parce que eh bien, le diable se sert des hommes pour leur faire faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et le diable est bien présent. Avec le Moyen-Âge et les peintures anciennes, le diable est devenu pour les hommes un personnage imaginaire, quelque chose de même de ridicule. On l'a affublé d'une queue, de griffes et de cornes. Et dans l'imaginaire des gens, c'est toujours comme ça. La Bible dit, c'est simplement un esprit. Alors on en restera là, c'est un esprit. Comme les anges de Dieu sont des esprits au service de Dieu, le diable est un esprit qui a jugé bon de s'affranchir du service de Dieu, de se rebeller contre Dieu. Et le diable, ou Satan, a pris le parti d'être et de faire le contraire de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait. Il fait tout le contraire. Il est alors devenu l'ennemi non seulement de Dieu, mais il est devenu l'ennemi du bien, du bon, du vrai, l'ennemi de la justice, l'ennemi de l'amour, de la bonté, de la miséricorde, de la pureté, de la sainteté. Et si Dieu est absolu dans le bien, dans le bon, dans le vrai, le diable est absolu dans la méchanceté, dans le mal, dans le mensonge. Et quand on lit ce texte de Daniel, le diable n'apparaît pas. Il n'est pas directement visible. Il y a uniquement des hommes qui agissent et qui interagissent les uns avec les autres. Mais pourtant, on le sait, il y a un monde qui est spirituel. Et de même qu'à l'époque du Nouveau Testament, le diable était actif et agissait dans la vie des hommes, on le lit dans les évangiles, on voit bien. De même, il est aussi présent dans cette scène où il y a Daniel et il y a ses hommes. Mais on ne le voit pas, il n'est pas cité, il n'est pas nommé, il est comme invisible. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Les hommes agissent et interagissent les uns avec les autres. Il y a des événements qui arrivent, des choses qui se passent, et le diable est nulle part. On ne le voit pas, il est comme invisible. Comme s'il n'est pas là, on ne le soupçonne même pas. Mais la Bible dit, il est là. Il est bien là. Et celui qui a les yeux ouverts, celui qui a connu le Père et qui a connu le Fils, il sait que le diable est bien là et qu'il agit. Il est actif. Et il y a une question de foi aussi. Puisqu'on ne le voit pas des yeux, eh bien, on croit. Et quand on croit en Dieu, alors, eh bien, on croit aussi au diable. Quoique, certaines personnes, parfois, croient en Dieu et ne croient pas au diable. D'autres croient au diable et ont bien du mal à croire en Dieu. C'est curieux, hein, comme finalement, on croit en ce qu'on veut bien croire. Mais quand on connaît le Seigneur, on sait que, eh bien, il y a aussi un ennemi qui est de l'autre côté. Et le diable n'est pas simplement un concept, hein, c'est pas une idée abstraite, mais c'est une personne, c'est un esprit avec une intelligence, avec une volonté et avec des buts. Alors, c'est ce qu'on va voir dans Daniel. Donc, Daniel n'est probablement pas tout jeune, parce que donc il a vécu le règne de Nebuchadnezzar, Nabonide, et puis Belshazzar, qu'on a vu la semaine dernière. Et le voilà maintenant sous le règne de Darius. Et on voit que Daniel n'a rien perdu à sa piété, à sa ferveur, à son amour pour le Seigneur au fil du temps. Il est toujours aussi consacré, fidèle, et toujours aussi béni de l'Éternel. Donc le voilà à la tête du royaume de Darius avec deux autres chefs, donc ils sont à trois. Mais on a lu ensemble, donc la sagesse de Daniel, l'esprit de Daniel surpassait les autres chefs. Alors Darius pense même à le mettre comme chef suprême sur tout le royaume. Versets 4 à 5. On va relire ensemble. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver une occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Et ici, c'est un premier point concernant le diable, c'est que le diable cherche une occasion favorable. Le diable cherche une occasion favorable. Ses chefs et ses satrapes cherchaient comment accuser Daniel. Alors, on peut rester à la surface de l'histoire. Et dire, bon, c'était juste une histoire de jalousie humaine, là, d'intérêt personnel, d'esprit de parti. Pour l'incrédule, il va voir rien d'autre. C'est simplement une histoire humaine ici. Mais pour celui qui a les yeux ouverts sur l'enjeu spirituel, il sait bien que derrière, il y a autre chose. Et il y a le diable qui manipule et qui agit. Il faut aller en dessous de la surface. Daniel représente une menace. Il est une menace non seulement pour ses hommes, mais il est une menace aussi pour le diable. Daniel, déjà par sa vie et par son témoignage, a bouleversé la vie du grand roi Nebuchadnezzar. Vous vous souvenez comment Nebuchadnezzar a proclamé l'existence et l'autorité du Dieu éternel, du Seigneur, du Dieu des Juifs. Il a dit ouvertement dans tout son royaume. Quel témoignage! Et maintenant, Daniel est observé par le grand roi Darius. Et on connaît la fin de l'histoire, on l'a lu ensemble. Darius, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proclamer, encore une fois, la grandeur, l'autorité, la vérité du grand Dieu qui délivre, qui sauve, le Dieu des Juifs, l'Éternel. Et on peut imaginer cette déclaration de Darius encore comme étant quelque chose qui avait un retentissement. Quand le roi proclame quelque chose, eh bien, tout le royaume est au courant. C'est un témoignage qui se répand partout. Et on ne sait pas combien ont été touchés par les témoignages de ces rois qui ont reconnu l'Éternel. Parce que finalement, pendant que Dieu était en train de châtier Israël, Dieu continuait à sauver des païens. Déjà, Dieu sauvait des païens, puisqu'il a touché Nebuchadnezzar, il a touché Darius et d'autres encore. Et non seulement cela, mais au dernier verset, verset 28, il est dit « Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. » Et on sait ce que Cyrus va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre aux Juifs de retourner bâtir le temple en Israël. Cyrus a dit, incroyable, il dit « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte. » Ça veut dire que Cyrus a été touché aussi par l'Éternel. Voyez un peu, des grands rois comme ça qui sont touchés par l'Éternel. Donc on voit que l'enjeu, il est grand. L'enjeu derrière cette personne de Daniel. Daniel dérange, Daniel est dangereux. Par sa fidélité, par son zèle, son amour pour Dieu, par son témoignage, c'est insupportable. L'ennemi de Dieu ne supporte pas Daniel. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une occasion favorable. Chercher une occasion favorable. Une occasion de le mettre en défaut, de l'accuser, de l'éliminer si possible, définitivement. Et on doit toujours avoir conscience que le diable continue, il cherche des occasions favorables. Et pour nous aujourd'hui, et comment s'y prend-il? Il a des armes, il a plusieurs armes. Je vous donne une liste comme ça que j'ai trouvée quelque part. Le mensonge. Là c'est incroyable, mais que vont faire ces hommes? Ils vont dire tous les chefs du royaume ont estimé qu'il est bon qu'on dise qu'il ne faut pas prier pendant 30 jours. Tous les chefs, non. Daniel était un grand chef, un des trois, et lui n'était pas d'accord. Mensonge. Le diable est menteur. Il fait croire des choses qui sont un mensonge. Le doute. Il vient semer le doute dans les cœurs. La calomnie. La ruse. La séduction. La tentation, le déguisement, la confusion, la violence, l'opposition, la persécution, l'occasion de mettre à terre, de faire tomber, de mettre à terre. Mais ce n'est pas là simplement ses seules armes. L'ennemi de Dieu nous connaît bien. Il nous connaît bien, il nous suit. Il sait ce qui nous tient à cœur, vraiment, ce que nous tenons. Hein. Il connaît nos aspirations profondes. Il sait ce que nous aimons, ce que nous chérissons. Il sait là où on est sensible. Alors il va chercher à frapper là où ça fait mal. Là où vraiment on va être touché. Dieu nous a fait très différents les uns des autres, avec un caractère, avec des affections, des sentiments. Alors il ne va pas employer la même méthode pour l'un que pour l'autre. Ce qui compte, c'est déstabiliser, c'est fragiliser, pardon, ce qui vient de Dieu. Le diable, ça vient de diabolos en grec. Diabolos, ça peut avoir la signification dia et bolos, c'est-à-dire se jeter en travers. Dia, c'est en travers. Mais ça signifie finalement celui qui divise, celui qui va couper, qui va séparer. Il veut diviser. Le diable cherche toujours à faire une division dans l'œuvre de Dieu. Ce qui est dangereux et intolérable pour lui, c'est une église qui est unie, aimante, fidèle, persévérante. Ça, c'est intolérable. Ça, c'est pas acceptable. Le diable va toujours chercher à briser parce qu'il déteste une église qui est comme cela. Et c'est normal. Regardez, simplement, prenez Matthieu. Je vous laissez une main dans Daniel. Matthieu 16, et on va lire le verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le sens de ce verset, les portes du séjour des morts, finalement, ne peuvent pas retenir l'Église de Jésus-Christ. Les portes de l'enfer ne peuvent pas retenir les saints et l'Église de Jésus-Christ. Et je dirais même, l'Église va chercher les perdus, pardon, va chercher les perdus au sein du séjour des morts. Nous allons chercher les morts. Nous allons prêcher l'évangile et arracher les morts à une mort certaine. Et nous les amenons à pouvoir eh bien, trouver leur espérance en Jésus-Christ. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas empêcher l'Église de Jésus-Christ eh bien, d'arracher les âmes et de les conduire au travers du sacrifice de Jésus-Christ dans l'éternité avec Dieu. Donc, l'Église unie, l'Église aimante, l'Église fidèle, elle est haïssable pour le diable. Il faut la briser, il faut la diviser, il faut la casser. Ça, c'est son but, c'est son objectif. Et de même, un couple uni, un couple qui aime Dieu, qui veut faire ce qui lui plaît, c'est détestable pour le diable. Il faut, là aussi, il faut briser, il faut diviser, il faut conduire si possible au divorce. Il faut planter ses pensées dans le cœur. Il faut se séparer. Dieu bâtit, il unit, il construit, le diable détruit, casse, brise, saccage. Alors il va essayer de jouer sur des incompréhensions, sur des maladresses entre nous, parfois sur des traditions humaines. On a aussi nos petites traditions, nos habitudes. Sur des malentendus, sur des suppositions, sur des choses qui nous tiennent à cœur, sur des affections qu'on possède. Et comme on est différents les uns des autres, ben c'est facile, hein, très facile de nous diviser. Soulever un sujet qui va diviser. Pour Daniel, on a vu que les chefs et les satrapes ne pouvait pas faire grand-chose. Daniel était irréprochable. Daniel se pliait aux lois que Babylone imposait. Il respectait. Donc, il était dans les clous. Tout allait bien. Et alors, eh bien, on ne trouvait pas un moyen de le coincer. Il était irréprochable. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont cherché dans la loi de son Dieu. Daniel a à cœur les intérêts de Dieu. Qu'à cela ne tienne, on va le faire chuter par la loi de son Dieu, au travers de son amour de Dieu. Et dans une église, il y a toujours un moyen de monter l'un contre l'autre, de diviser l'un contre l'autre. Il faut juste appuyer là où ça fait mal. Un des moyens, c'est d'appuyer là sur le, ou de jouer sur le laxisme et sur le légalisme qu'il y a dans les cœurs. Alors on a deux extrêmes ici. Hein, c'est des mots forts, légalisme, laxisme. Laxisme, c'est vraiment l'opposé, hein, c'est le fait de croire qu'il n'y a rien vraiment d'important. Laxisme, ça vient de laxus, relâché. C'est le relâchement, voilà, une discipline relâchée, une morale large. Et puis l'autre opposé, c'est le légalisme, où là tout est légiféré, tout est carré, hein, discipline stricte, pas de concession, la règle, les règles, carré, anguleux. Et le diable va jouer comme ça sur le laxisme et le légalisme des autres, ou de ce que nous prenons pour du laxisme, ou ce que nous prenons pour du légalisme. Parce que parfois, ce n'est pas le cas. Regardez, par exemple, je ne le prenais pas, mais dans l'Épître aux Romains, Paul nous parle de personnes mangeant de tout, tout ce qui se vend au marché, et d'autres ne mangeant que des légumes. Ils sont végétariens. Ils ont décidé d'être végétariens. Et Paul va dénoncer deux attitudes qui sont tout autant reprochables. La première, c'est de mépriser ceux qui ne mangent pas de tout. On les méprise. Oh là là, ils ne mangent pas de tout. Et on se dit, mais finalement, ils sont légalistes. Ils se privent de certains aliments qu'ils pourraient manger, là. Et ils s'en privent, ils sont légalistes. Et puis de l'autre côté, le deuxième, c'est de juger ceux qui se sentent libres de manger de tout. Et là, on se dit, mais ils sont laxistes quand même. Et eux, ils mangent de tout comme ça, ils ne se soucient pas de Dieu ou quoi. Et là, on dit, ils sont laxistes. Et une église, c'est un corps. Et il faut se respecter les uns les autres. C'est si facile de trancher sans réfléchir et de juger durement celui qui ne fait pas comme nous, nous faisons. Ou comme nous pensons qu'il faut faire. Et c'est si facile de mépriser celui que l'on estime trop discipliné, trop attentif à la règle, là, trop dans les clous. Là. Et le diable veut nous monter les uns contre les autres. Et il veut le faire particulièrement dans une église qui avance, qui progresse. Alors il ne faut pas mépriser, il ne faut pas juger ni les uns ni les autres, mais plutôt essayer de se mettre à la place de l'autre. Il faut accepter aussi parfois que quelqu'un puisse être différent quand la parole de Dieu ne tranche pas. Si la Bible tranche, c'est écrit noir sur blanc, bah là, il n'y a pas à chercher. Mais il y a plein de sujets où ce n'est pas écrit noir sur blanc. Hein, la limite, là, c'est pas net. Hein, c'est pas très net. Hein. Dieu ne condamnait pas les Romains qui mangeaient de tout. Dieu ne rejetait pas les Romains qui se privaient et qui étaient végétariens. Ils laissaient les uns et les autres libres, dans la liberté. Mais si l'occasion de chute n'est pas là, c'est pas grave, on va chercher ailleurs. Le but, c'est de trouver une occasion de chute, et on va en trouver une. Et si Daniel était irréprochable et vraiment il n'y avait aucun moyen de le piéger, pour nous, c'est pas toujours notre cas. Quand on regarde nos vies, parfois, eh bien, on voit des faiblesses, hein. Il y a des trous, hein, des failles, où là, il y a un problème. C'est pas encore, on n'est pas libéré encore, on n'est pas délivré. Une faiblesse. Et il sait où se jouer de nous. Il est passé maître dans l'art de faire tomber les hommes. Ça fait des millénaires qu'il le fait. Il sait de quoi il parle. que ce soit par la convoitise des yeux, par la convoitise de la chair ou par l'orgueil de la vie, où se trouve notre sensibilité? Où est notre plus grande faiblesse? Où se trouve notre faille? Où on va réagir, voilà, le plus facilement? Est-ce que ça sera par la convoitise de nos yeux? L'œil est insatiable de posséder, sans cesse. Est-ce que ça sera par la convoitise des yeux? Est-ce que ça sera par un besoin physique qui n'est pas assouvi? On a des besoins et parfois on se dit, mince, c'est mon droit. Est-ce que ça sera par le désir de paraître, le désir de réussir? On a besoin d'exister, de se sentir reconnu, de se sentir accepté. Et le diable s'est aussi joué sur cela. Il s'est développé une jalousie de l'un par rapport à l'autre. Où se trouve l'occasion favorable? Par où va-t-il essayer de nous surprendre? Pour Daniel, c'était un homme qui aimait Dieu. C'était un homme qui passait du temps avec Dieu. Alors le diable est allé le piéger sur ce terrain-là. Daniel prie son Dieu chaque jour. Très bien, promulguons une loi qui lui interdit de prier pendant 30 jours consécutifs. Et Darius n'y voit que du feu. Il promulgue le décret. Et là, on a quelque chose qui tient très à cœur le diable. C'est la relation que la créature maintient avec le Créateur. La relation de l'enfant de Dieu avec son Dieu. Ça le tient très à cœur. Et le décret de Darius s'attaquait à cela. Soit Daniel prend peur, il devient infidèle à son Dieu, soit Daniel persévère dans la prière, il est jeté dans la fosse aux lions. Soit il s'affaiblit spirituellement, et là il commence à y avoir un moyen de le faire tomber, parce qu'il ne prie plus pendant 30 jours. Soit Daniel continue à prier, et là, ils peuvent le faire jeter dans la fosse aux lions. Et finalement, dans un cas comme dans l'autre, les chefs et les satrapes pouvaient finir par le piéger. Et encore, et bien derrière, c'est le diable. Le diable cherche à nous couper de Dieu. Il veut nous couper de Dieu. Il veut couper cette relation, cette liberté que nous avons avec le Seigneur. Et on le sait, la force d'un croyant, elle vient, elle se trouve dans cette relation quotidienne et proche avec le Seigneur. C'est là, quand on se met derrière notre porte, dans l'intimité, qu'on est ressourcé quand on est épuisé. C'est là où on est fortifié, affermi, quand on est affaibli. C'est là où on est soulagé quand c'est trop lourd. C'est là aussi où on est éclairé quand eh bien, ça commence à être un peu obscur et on ne sait plus par où se tourner, quel chemin prendre. Si Daniel avait en lui un esprit supérieur, s'il dépassait les chefs et les satrapes dans ses activités quotidiennes, c'est que Daniel passait du temps avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il avait cet esprit-là. Et il n'y a qu'une chose qui puisse nous permettre de tenir fidèles, debout, c'est de garder le contact avec le Seigneur. Jésus a dit « Veillez, priez ». Dieu nous dit « Priez sans cesse ». Dieu met l'accent sur cette communion avec lui, un temps seul à seul. Il veut qu'on ait un endroit, il veut qu'on ait un moment, ou des moments, ici Daniel en avait trois, où on vient et on lui remet tout ce qu'on a sur le cœur. Tandis que le diable, lui, veut couper, il veut nous couper de cette relation. Il veut empêcher la relation. Comment ? Par un planning surchargé. Voilà. S'il y a trop de choses à faire, ben, qu'est-ce qui vient être écourté ? C'est la prière. Par des sollicitations multiples. Par de la procrastination. Procrastination, mot compliqué, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Remettre au lendemain. Ah ben, j'ai pas le temps aujourd'hui, je prierai demain. Ah ben, j'ai pas le temps, ah ben, demain, oh ben, samedi j'aurai le temps. Hein, c'est le week-end, Et puis, voilà, on remet, on remet. Il veut aussi nous empêcher par des obstacles. Il met des obstacles pour que ça puisse pas être possible, la relation. Il veut mettre quelque chose en travers de notre chemin. Il veut aussi nous faire douter. Oh, ta prière va pas être entendue. C'est pas la peine, toi. Tu es pas assez saint. Tu pries pas assez souvent. Dieu t'écoutera pas. C'est pas la peine. Ça, c'est un mensonge. Un mensonge du père du mensonge. Le menteur, c'est lui. Dieu veut que nous prions, Dieu veut que nous demandions. Et lorsqu'on est dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, son sang nous purifie de tout péché, et on a un plein accès à Dieu. Et notre prière est entendue. On est chacun des sacrificateurs pour l'Éternel. Chacun, on peut entrer dans le lieu saint et on peut présenter nos prières au Seigneur. Demandez et vous recevrez. Mais si le diable réussit à nous couper de Dieu, il gagne sur toute la ligne. Notre vie s'affaiblit, l'énergie divine, si je peux dire, du Saint-Esprit décroît. Notre cœur a de moins envie de prier, moins en moins envie de prier. Moins on prie, moins on a envie de prier. Et puis ben c'est un cercle, et puis on prie de moins en moins, et on finit par ne plus prier. À ce moment-là, on remplace les bonnes habitudes par d'autres habitudes, pas forcément mauvaises, mais d'autres habitudes. Imaginez pour Daniel, il s'arrête de prier pendant 30 jours. J'avais lu quelque part, je ne sais plus où, que pour installer une habitude dans la vie de quelqu'un, il faut une trentaine de jours. Si vous répétez la chose une trentaine de jours, l'habitude est prise. Mais là, le contraire. 30 jours, on ne prie plus. Ben, la bonne habitude est perdue. Elle est perdue. Et il faut bien avoir conscience que l'intérêt du diable, c'est qu'on ne prie plus. Qu'on ne prie plus les uns pour les autres. Comme ça, eh bien, c'est tout le monde qui s'affaiblit, hein. Il est dit prier pour tous les saints. Et puis qu'on ne prie plus pour soi-même. Même on ne prie plus pour soi-même. Jésus nous a dit, hein, veillez, priez. Exemple de prière, ne nous induis pas en tentation. Priez pour soi-même, pour que Dieu nous garde, parce qu'on est faible et qu'on va tomber. Le diable a un intérêt vraiment à ce que la relation avec Dieu d'abord soit distendue. Ça commence à être en pointillé. Et puis finalement, c'est coupé. Petite prière de temps en temps, rapide. On prie à table. Et puis voilà. Ça, c'est notre vie. Il faut être vigilant. Le diable veut nous couper du Seigneur. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Et Daniel respectait la loi des Mèdes et des Perses, mais il n'a rien sacrifié en ce qui concerne sa relation avec Dieu. Ça, hors de question. Je continue à garder cette bonne habitude. Alors, eh bien, l'Éternel était son conseiller, l'Éternel était sa sagesse, sa force, sa joie. L'Éternel le bénissait. Et si le diable réussit à nous couper, eh bien, on va se retrouver dans un état de sécheresse spirituelle, d'affaiblissement, et il va nous manquer l'essentiel. Daniel ne voulait rien perdre de son lien avec le Seigneur. Il l'aimait trop pour cela. Alors, verset 11, ces hommes entrèrent tumultueusement. Ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Voilà l'occasion qu'ils attendaient. Daniel vient de transgresser le décret du roi Darius. Alors, eh bien, Darius est pris au piège. Le diable peut aussi tendre des pièges. Darius est pris au piège, il n'a rien vu. Et il se retrouve à jeter Daniel dans la fosse aux lions. Le diable a réussi. Le prophète de l'Éternel, témoin du Dieu vivant, est jeté au milieu des lions. Et on a ici une troisième chose que le diable cherche à faire. C'est que le diable veut nous anéantir par l'épreuve. Il veut nous éliminer, nous anéantir par l'épreuve. C'est le but ici. Qui peut ressortir vivant d'une fosse aux lions qu'on n'a pas ou peu nourri. Impossible. Donc l'épreuve là a pour but d'en finir avec Daniel. Il va être dévoré, il ne se relèvera pas. Et c'est bien là l'espérance de l'ennemi. Il voit nos épreuves comme un moyen de nous anéantir, de nous écraser, de nous broyer, afin qu'on ne se relève pas. Il nous veut déprimer, il nous veut amer, il nous veut en rébellion contre Dieu. Il veut cela, il excite cela dans nos cœurs. C'est ce qu'il espérait de Job, quand il parlait à son sujet avec Dieu. Il s'est dit, mais en prenant les biens et les enfants de Job, mais Job va abandonner son Dieu, il sera dans l'amertume. Dieu a alors permis que le diable prenne les enfants et les biens, et Job se prosterna. « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Le diable s'est dit, « Ben alors je vais lui prendre la santé, il va maudire Dieu là, c'est pas possible, il va maudire Dieu. » Et Job a perdu la santé. Et Job a dit, « Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal de Dieu. » Autrement dit, si Dieu permet ça, il est sage, il sait ce qu'il fait. Le diable voulait frapper Job d'un coup qui ne se relève pas. Mais Job n'a pas péché par ses lèvres, est-il dit. Alors Job était dans l'incompréhension, il était dans la souffrance. Imaginez son épreuve. Quelle épreuve, pire. Il était dans la peine, dans les pleurs. Difficile d'être plus éprouvé que cela. Mais Job ne rejetait pas Dieu pour autant. Alors le diable, c'est pas écrit, mais on comprend quand on lit ses trois amis, là. Il a pris ses trois amis et puis il a commencé à accuser, taper sur Job. Hein, et par-ci, comme ça. Faut pas prendre pour argent comptant tout ce que les amis de Job disent. Hein. Et là, il a tapé Job. Et Job va lutter pour ne pas s'aigrir contre Dieu, hein, parce que là, ça commence à être lourd. Et finalement, Job va sortir de l'épreuve. Et comment il en sort? Il en sort grandi dans la connaissance de l'Éternel. Job a appris à aimer Dieu, non pas pour ce qu'il accorde, mais pour ce que Dieu est, pour ce qu'il est. Mais le but du diable, c'était que Job ne se relève pas dans son épreuve. Et ce que le diable veut avec nous et nos épreuves, c'est qu'on soit anéanti, qu'on ne se relève pas dedans, qu'on en meure. Alors il ne fait aucun doute que c'est Dieu qui permet les épreuves. Il faut toujours garder ça présent à l'esprit. Hein. Peu importe d'où elles viennent, quand l'épreuve est là, elle est là. Peu importe d'où elle vient, pas commencer à les chercher. C'est Dieu, quoi qu'il arrive, qui le permet. Dieu permet l'épreuve. Dieu a permis que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Et c'est peu de choses de le dire. Jeté dans une fosse aux lions. Imaginez-vous, on vous prend, on vous lit, on vous met au milieu d'un trou là, et en dessous il y a des lions affamés. On vous pousse, on vous jette, vous tombez lourdement dans la poussière, et vous voyez ces ombres et ces lions qui grognent autour de vous. Imaginez l'épreuve. Votre cœur, là, hein? J'ose pas imaginer ce qui s'est passé dans le cœur de Daniel. Et il fallait toute la grâce de Dieu, parce qu'il n'est pas resté une heure. Il a passé toute la nuit au milieu des lions. Parce que vous pouvez très bien être comme Pierre, vous savez, oh Seigneur, je viens. Et puis au début, tout va bien, on a foi. Puis d'un seul coup, on regarde les vagues et tout ça, et là, on coule, anéanti. C'était pareil pour Daniel. Dans son épreuve, le diable voulait qu'il périsse, qu'il soit dévoré. Et Dieu voulait qu'il croie, qu'il fasse confiance et qu'il vive. Et le diable veut vous anéantir. Et Dieu veut que vous traversiez. Et on voit, Daniel n'était pas seul. L'ange de Dieu était avec lui. Et c'est aussi une garantie dans l'épreuve. On n'est pas seul, comme le Seigneur l'a promis. Le Seigneur est avec nous. Et Daniel va traverser, il va passer cette nuit dans la fosse aux lions. Et que dit-il en sortant? Regardez, verset 22. Il dit, « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Qu'est-ce qui a sauvé Daniel? La foi. La confiance en Dieu. C'est ça qui l'a sauvé. Et lorsque le diable veut se servir de l'épreuve pour nous faire mal, qu'est-ce qu'il nous faut? La foi. Il nous faut avoir confiance en Dieu. Dieu veut qu'on place notre confiance en lui, même si c'est effrayant, même si c'est au-delà de nos forces. Parce que chaque épreuve, quand on la vit, pour nous, mais c'est ce qu'il y a de plus dur. On a le sentiment, c'est ce qu'il y a de plus dur. Quelqu'un vient vous partager son épreuve. Pour lui, il n'y a pas pire que ce qu'il vit. Et parfois, il n'imagine pas une seconde que vous, vous avez peut-être une épreuve difficile. Et pour vous, votre épreuve, mais c'est ce qu'il y a de pire. Parce que vous êtes dedans. Vous en connaissez tous les détails. Et vous le vivez au quotidien. Et pour nous, pour chacun, notre épreuve, elle est difficile. Et c'est là qu'il faut user de grâce, de miséricorde, de compréhension. D'une part, prenant le temps d'écouter, de soutenir celui ou celle qui est éprouvé. Et d'autre part, quand nous partageons notre épreuve, ne pensons pas, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Alors c'est vrai, pour nous, dedans, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'on le vit. Et souvent, on se dit que notre épreuve, elle nous amène à nos limites. On ne peut pas la passer. Ça va être trop dur. Vraiment, on va craquer. C'est au-delà de nos forces. On ne va pas s'en sortir. Mais si Dieu le permet, ce n'est pas au-delà de nos forces. Ce n'est pas au-delà de nos forces. Le diable veut nous faire croire que c'est insurmontable et que nous allons craquer. Mais ça ne l'est pas. Ce qu'il faut, c'est la foi. Dieu veut qu'on traverse en lui accordant une confiance qui est sans limite. Regardez par exemple, je vous donne plusieurs exemples d'épreuves. Est-ce que ce n'était pas ce qu'il y avait de pire pour Abraham que de sacrifier son fils? Mettez-vous à la place d'Abraham. Il a attendu son fils chéri, là. Il a 100 ans quand il l'a. Et Dieu lui dit, maintenant tu vas le sacrifier. Mais la déchirure dans l'âme, déchirée. Est-ce que ce n'était pas ce qu'il y avait de pire que d'être rejeté par ses frères, par Joseph? Jeté dans une citerne, abandonné de sa famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vendu à une caravane pour devenir un esclave en Égypte. Est-ce que ce n'était pas ce qu'il y avait de pire que d'être emprisonné pendant 2 ans et on vous oublie? Vous êtes là et vous dites, mais je vais passer ma vie ici. Personne ne va venir me chercher. Seigneur, entends-tu mes prières? C'était ce qu'il y avait de pire. Est-ce que ce n'était pas ce qu'il y avait de pire pour David que d'être pourchassé par le roi Saül? Et puis après, d'être détrôné par son propre fils, par sa chair. C'était terrible. Est-ce que ce n'était pas ce qu'il y avait de pire pour Jérémie, quand il était prophète de l'Éternel, il prêchait la parole et il se sentait rejeté et abandonné de tous? Est-ce que ce n'était pas quelque chose qui était pire pour Daniel, quand il a renié ouvertement le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui s'est passé là dans son âme quand le Seigneur a tourné les yeux et l'a regardé? Pierre. Oh. Mais ça devait être... Il était cassé en 1000 morceaux dans son âme. cette épreuve était terrible, terrible. Et chacune de ces épreuves, pour eux, c'était la pire. Parce qu'elle comportait son lot de déception, de tristesse, d'incompréhension, d'angoisse, de trouble. Chacun a éprouvé un poids dans l'âme, un fardeau pesant, un découragement qui était immense. Mais qu'est-ce qui leur a permis à tous de ressortir la tête et de traverser l'épreuve? La foi. Tous ont eu confiance et tous sont sortis de l'épreuve. Le diable n'était pas loin d'eux, certainement, pour les décourager, pour les accabler, pour les briser dans leur âme. Mais le Seigneur était aussi là pour leur faire traverser leur épreuve. Et aucun n'a été dévoré dans la fosse, tous s'en sortir. Et si le diable veut nous anéantir dans l'épreuve, le but de Dieu, c'est qu'on en sorte par la foi. Et je conclue ici. Je résume. On a un ennemi qui nous guette, qui veut nous perdre. Il cherche une occasion favorable. Il cherche une occasion de chute. Il va essayer de nous diviser. Il va essayer de nous monter les uns contre les autres. Il va essayer de souligner des défauts, des problèmes chez les uns et les autres. Qu'est-ce qui nous gardera? C'est de rester près du Seigneur. Et le diable va essayer de nous couper du Seigneur pour que justement, on perde des forces et qu'on ne puisse pas surmonter et qu'on ne puisse pas traverser. Il faut tenir ferme sur ses positions. Et quand on passe dans la vallée de l'épreuve, il ne faut pas écouter cette voix qui nous dit « Tu ne t'en sortiras pas ». Dieu a déjà écrit l'histoire. Et l'histoire, c'est qu'on traverse, qu'on aille de l'autre côté. Allons sur l'autre bord. Et il nous conduira sur l'autre bord. On va s'incliner dans la prière. Père, merci. Merci parce que c'est toi qui ouvres les textes. C'est toi qui les éclaires. C'est toi qui donnes le pain. C'est toi qui nourris nos âmes. Et nous t'en bénissons, nous t'en remercions. Merci pour ton amour pour chacune de nos âmes, parce que tu nous aimes profondément, tu nous connais, tu prends soin de nous. Seigneur, que tu nous bénisses chacun dans nos vies, dans nos épreuves, que tu nous gardes aussi. Seigneur, protège ton Église, mets la paix, mets la communion, mets l'amour, déverse l'amour. Oh Seigneur, aide-nous à garder toujours présent à l'esprit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations dans les lieux célestes qui veulent faire du mal et briser ce que tu construis. Seigneur, bénis cette semaine et donne-nous de veiller et prier. Nous t'en remercions au nom de Jésus-Christ.